Vous voyez qu'il y a écrit ici « Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha », ça veut dire que ce texte a été dicté directement par Rabbi Nachman. Parce que souvent, les textes, ce sont des textes résumés, ce sont des cours entiers qui ont été résumés par Rabbi Nathan, son élève. Là, c'est directement Rabbi Nachman de Breslav. Maintenant, je rappelle que les 17 ou 18 premiers enseignements, les premiers chapitres donc de Likutei Moharan, sont formellement des commentaires, des agadot de Rabba Bar Bar Hana. C'est quoi les agadot, les récits, les contes de Rabba Bar Bar Hana? Alors, il y a ici quelqu'un qui dit qu'il y a un micro ouvert qui dérange. Non, c'est pas ça. Ce qui dérange, c'est qu'il y a un haut-parleur dans ma rue qui annonce un enterrement. Et en principe, ça doit s'arrêter dans quelques secondes. Je crois que ça se calme là, ça s'éloigne un peu. Voilà, bon, j'espère. Et donc, pour revenir à Rabba Bar Bar Hana, un des sages du Talmud, un peu, disons, mystérieux, un peu légendaire, s'appelle Rabba Bar Bar Hana. Et il enseigne des contes fantastiques, ça s'appelle les récits de Rabba Bar Bar Hana. En général, ça se passe dans le désert ou dans l'océan. Et il emploie des tas de termes en araméen un peu compliqués, ce qui demande donc des commentaires. Et un des grands enjeux de certains de nos maîtres a été justement d'expliquer les contes de Rabba Bar Bar Hana. Vous avez le commentaire du Gaon de Vilna. Vous avez le commentaire de Rabbi Nachman de Breslav. Il y a également un commentaire du Rav Kook. Chacun, à sa manière, a interprété les métaphores et les paraboles de ces enseignements. Alors, souvent, par exemple, dans le texte que nous allons voir là, ici, c'est assez long. C'est 4 pages et demie. C'est beaucoup. Maintenant, l'enseignement de Rabba Bar Bar Hana sera expliqué seulement à la fin. C'est-à-dire que ce que fait Rabbi Nachman, il va nous expliquer ici toute une série de choses. À la fin de l'étude, il va nous expliquer que tout ce qu'il a dit est résumé dans l'enseignement de Rabba Bar Bar Hana. Mais là, nous allons voir les idées elles-mêmes. Alors, ça tourne autour ici d'un verset, Bahatsot, et le verset sera compris seulement à la fin totale de tout le texte. Et je doute fort que nous puissions aujourd'hui tout finir. Mais enfin, c'est pas grave. C'est un verset de Tehilim, Bahatsotzerot vekol shofar, hari'u lifne amelech Hashem. Avec des trompettes et la voix du shofar, retentissez devant le roi Dieu. Il y a ici écrit vechoule, etc. Donc il faut continuer le verset, il n'est pas écrit. Yir'am hayam umlo'o. La mer et tout ce qu'elle contient va rugir. Tevel veyoshveva, le globe terrestre avec tous ses habitants. Voilà. Alors, tout ça, ça parle donc du shofar. Il ne s'agit pas ici du shofar de Rosh Hashanah, il s'agit aussi du shofar de Rosh Hashanah, mais il y a cette idée qu'il faut retentir, qu'il faut rugir devant l'Éternel et que cela entraîne un rugissement de la mer et de la terre tout entière. Bon, de quoi s'agit-il? Alors on va y aller. Kitzarir kol adam lomar, kol haolam no nivra et la bishvi. Tout homme doit dire, le monde entier n'a été créé que pour moi. Intéressant ça. Ça se trouve dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Metzai. Ça veut dire quoi? Le monde entier est créé pour moi. Si, et moi, et toi, sommes fidèles à l'enseignement des Chachamim, alors je dirais, le monde entier a été créé pour moi. Les Chachamim m'ont dit que je suis obligé de dire que le monde a été créé pour moi. Mais le problème, c'est que mon ami, qui lui aussi est fidèle à l'enseignement des Chachamim, lui aussi dit que le monde a été créé pour lui. Donc, il y a obligatoirement une controverse entre toi et moi. Je dis que le monde a été créé pour moi, et toi tu dis que le monde a été créé pour toi. Ce qui veut dire que chaque individu est un monde entier. C'est-à-dire, si vous prenez un point et que vous dessinez un cercle autour de ce point, et que vous prenez un autre point, pas très éloigné d'ailleurs, et que vous dessinez un autre cercle autour de ce point, eh bien les cercles ne seront pas équivalents. Ils vont peut-être être proches l'un de l'autre, mais il y aura quand même une distance. C'est-à-dire, chacun de nous est d'une certaine manière le centre du monde. Il y a un texte dans la Gemara, dans Menachot, dans lequel il y a un débat entre Rabbi Yehoshua, un des grands maîtres de Tanaïm, et les sages d'Athènes, Sabé de Véatouna, les anciens de la ville d'Athènes. Et les sages athéniens, donc des philosophes, demandent à Rabbi Yehoshua où est le centre du monde. Ça veut dire quoi, où est le centre du monde? La question est-elle une question physique? Ça n'a aucune importance de savoir où est le centre du monde sur le plan physique. Donc, il s'agit de savoir quel est le centre du monde du point de vue des valeurs. Qu'est-ce qui est important dans le monde et qu'est-ce qui est périphérique? Et Rabbi Yehoshua prend son doigt et dit, il est là. Et les sages d'Athènes lui disent, comment est-ce que tu sais? Ben, il dit, c'est très simple, prenez des cordes et mesurez à partir de là jusqu'au bout du monde et à partir de là à l'autre bout du monde et vous verrez que j'ai raison. Alors ça a l'air d'être une plaisanterie, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que le centre du monde est partout. Il y a en chacun un centre. Et donc, à partir du moment où je suis moi le centre du monde, ça veut dire que je suis responsable du monde. C'est ça que ça signifie. Il y a, vous savez, le phénomène du nombrilisme, on se prend pour le centre du monde. C'est de l'égoïsme. Mais ça peut être exactement le contraire. Je suis le centre du monde, donc je suis responsable du monde. C'est ce qu'il dit ici. Nimtza, keshe haolam nivra bishvili. Il se trouve donc, puisque le monde a été créé pour moi, tsarich ani lirot ule'ayen bechol et betikun haolam. Je dois donc m'intéresser à tout moment et à rechercher la réparation du monde. Ou les malot resron haolam, et de remplir ce qui manque dans le monde. Ou lit palel ba'avouram, et prier pour eux. Voilà. Ça, c'est, ça, vous voyez, à la limite, c'est presque pas du breslave, c'est de l'hébreu. Mais le Baal Shem Tov expliquait que le mot bishvili, pour moi, ça veut dire également par mon canal, bashvil sheli, c'est-à-dire par mon sentier. Je suis un canal à travers lequel le monde entier est vivifié. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, que Dieu disait, le monde entier, je l'ai créé par Bishvil Hanina Beni, par le sentier de Hanina, mon fils, c'est-à-dire de Rabbi Hanina Ben Dosa. En tout cas, ce qui est dit là, c'est que le monde entier, je suis donc responsable du monde. C'est ça que ça signifie. Et il y a différentes manières de réparer le monde. Du temps de Rabbi Nachman, la seule manière immédiate et pratique pour un chassid de réparer le monde, c'est la prière. Il n'y avait pas à l'époque tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas l'État d'Israël. Il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas tout ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager une réparation du monde. Et tout se concentrait donc, il n'y avait même pas le Beth Amikdash, tout se concentrait dans une expérience intérieure, celle de la prière. Et donc le texte que nous allons étudier est un texte qui est centré autour de la prière en tant que réparation du monde. Petite remarque importante. La prière, c'est le contraire du sacrifice. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait des sacrifices. Il y avait également la prière. Alors on a l'habitude, peut-être par paresse intellectuelle, de dire que la prière, c'est comme les sacrifices. C'est totalement faux. Le sacrifice est un acte conservateur, tandis que la prière est un acte révolutionnaire. Les sacrifices ont pour but de préserver l'intégrité du monde. Il y a de temps en temps des fautes, il y a des déficiences, Et c'est comme une machine qu'il faut de temps en temps huiler. C'est-à-dire une fois par semaine, vous devez vérifier votre machine, une fois par mois, rentrer plus dans l'intériorité, et il faut donc s'occuper de la machine du monde. Pour que la machine du monde ne se détériore pas, il faut des sacrifices dans le Beit HaMikdash. Mais quand il y a la prière vient demander que le monde soit transformé. J'exige dans la prière que quelque chose change. Et alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit que la prière vient remplacer les sacrifices? C'est pour nous dire une chose, c'est que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit et qu'il n'y a plus de sacrifices, la prière a pris sur elle un rôle supplémentaire qui est de remplacer les sacrifices. Mais c'est pour ça qu'elle a changé de nature. La prière a changé de nature dans deux domaines importants. D'abord, elle a une heure fixe et elle a un texte fixe. Ce qui est le contraire de la spontanéité de la prière. Pourquoi? Parce que il faut pour que la prière intègre également les données du sacrifice qui sont en fixité et avec des actions bien précises prévues à l'avance. Mais la prière, dans sa nature intérieure, c'est la transformation du monde. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslav encourageait ses chassidim à prier également spontanément, en parlant avec Dieu dans la forêt, en yiddish, qui est la langue de l'époque, et de s'exprimer de manière totalement libre. Est-ce que Rabbi Nachman était pour supprimer la prière synagogale? Non, au contraire, la prière de la synagogue est très importante. Elle doit avoir un complément qui est la prière spontanée du chassid qui raconte à Dieu toutes ses misères dans la forêt ou dans l'isolement, ce qu'on appelle la hitbodedut. Mais le but de la prière, et donc un but extrêmement important, c'est de réparer le monde. Et là, nous allons voir ce que dit Rabbi Nachman sur la manière de prier. V'inyan atefila hen bishne panim. Il y a deux aspects différents de la prière. Rappelons une chose importante, définition de la prière. C'est une chose qu'on oublie souvent. La prière signifie une demande adressée à Dieu de changer quelque chose. Les louanges, par exemple, ou les remerciements, les grâces, tout cela, c'est l'enveloppe. C'est comme par exemple dans la Amida, la prière des 18 bénédictions, vous avez les trois premières bénédictions qui sont des louanges, les trois dernières qui viennent remercier, mais l'essentiel de la prière, ce sont les bénédictions intermédiaires dans lesquelles nous demandons quelque chose. Et donc, Rabbi Nachman est tout à fait d'accord avec cette définition. Et là, nous rentrons dans l'intériorité de la chose. Ve'inyan atefila, l'essence de la prière, hen bishne panim, c'est de deux manières. Haïnu, c'est-à-dire, kodem gzardin, mitpalelin keseder atfila. Avant que le décret n'ait été donné, on prie selon l'ordre habituel de la prière. Ve'en tsarir lehalbish atefila. Il n'est pas nécessaire de vêtir la prière. Aval, l'ahar gzardin, mais après que le décret a été donné, tsarir le'albi shatefila, il faut habiller, vêtir la prière. Voilà, c'est quoi cette histoire? Vêtir la prière, ça veut dire quoi? Il y a d'abord ce qu'on appelle le décret et pas le décret. C'est-à-dire, il y a l'homme est jugé. Et on n'est pas jugé à tout moment. Il y a des moments dans l'existence dans lesquels nous sommes en jugement. Et avant que le jugement n'ait été prononcé, il y a un décret, donc un verdict. Avant qu'il y ait le verdict dans le tribunal d'en haut, la prière est plus facile. Parce que rien n'a été décidé. Mais une fois que le verdict a été donné, alors la prière a besoin d'un vêtement. C'est-à-dire quoi, un vêtement? On a besoin d'associer à la prière d'autres expériences vécues. on va voir que ce dont il est question, c'est la joie, parce que sinon la prière ne passe pas. Aval, le har gzardin, après le verdict, tsarich le albish atefila, il faut habiller la prière. Pour que les anges qui se tiennent à gauche ne nous mettent pas en accusation. C'est quoi les anges qui sont à gauche? Il y a dans le monde des anges. Quoi les anges? C'est une série d'êtres qui font écran entre l'homme et la volonté du Créateur. Quand je suis sous l'empire des anges, alors j'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai énormément d'écrans à traverser. C'est quoi les écrans en question? Ce sont les accusations. C'est-à-dire, ah, tu viens demander à Dieu telle et telle chose, est-ce que tu le mérites? Les anges doivent ouvrir les registres de tes actes et voir si tu mérites ou pas. Par contre, il y a une autre voie qui est de s'adresser directement au Créateur, pas par l'intermédiaire des anges. Ça s'appelle la droite. Et les anges, ils sont à gauche. Et je dois prier, après qu'il y ait le verdict, la prière est confrontée au formalisme des anges, le formalisme de la loi. Et donc, je dois habiller la prière, pour que les anges ne comprennent pas. Ha'omdim lismol, qui se tiennent à gauche, velo et katregu, et ne mènent pas en accusation. Kemoshekatu. Alors, il amène un verset de Daniel, en araméen, Bigzerat Irin Pidgamin, c'est par le décret des anges que sort la parole, Hainu la Harzardin, c'est-à-dire après le verdict. Azai, Bemahamar Kadishin She'iltin. Et alors, le verset continue en disant, par la parole des saints se font les demandes. C'est quoi les saints? Ce sont les tzadikim. Azai a tzadikim, c'est alors que les justes, Malbishim She'elatam, enveloppent leurs demandes, Bemahamar, par une parole. Donc, nous avons ici, Yaakov Zerbib a une question. Vas-y, pose-la.
Arav, est-ce que on peut dire que c'est exactement ce qu'ont fait les kabbalistes avec les sphirotes, que justement, enfin, le fait de prendre la prière quelque chose a priori, que, si j'ai bien compris, qui est censé être direct, mais comme il n'y a plus de névoie, alors aujourd'hui on doit faire par des sphirotes, par des, c'est ça ou pas? J'ai mal compris.
Les kabbalistes, dans les kavanot, dans les intentions des prières, il y a toute une série de choses. Il y a les séphirotes, il y a les anges, c'est pas du tout la même chose, ce sont différentes manières. Les séphirotes, au contraire, c'est s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu. Bon, alors, donc, nous avons ici le premier paragraphe, nous avons compris qu'il y a deux états de la prière. Il y a la prière lorsque il n'y a pas eu encore le verdict, elle est facile, mais quand il y a déjà eu le verdict, alors ça devient plus difficile. Maintenant, le problème de savoir comment est-ce que je sais si je suis avant le verdict ou après le verdict. C'est-à-dire, je dois savoir comment donc faire ma prière. Aval, Yadaina, comment savoir ben kodem gzardin, ben lachar gzardin, si on est avant le verdict ou après le verdict? C'est dans l'accomplissement des mitzvot que nous pouvons savoir si nous sommes avant le verdict ou avant le verdict. C'est-à-dire, je fais des mitzvot, j'accomplis, et je peux savoir, je peux ressentir quel est l'état de mon monde. Est-ce que je suis avant verdict ou après verdict? Est-ce que je ressens une difficulté ou est-ce que je ne ressens pas cette difficulté? Mais attention, pas par n'importe quel accomplissement des mitzvot. Vedavka kesheosim a mitzvot besimcha gdola kolkar. Mais ce n'est vrai que lorsque l'on accomplit les mitzvot avec une grande joie, à tel point que ad she'en rotze beshum schar olam haba, au point de ne même pas vouloir la récompense du monde à venir. C'est-à-dire, la joie qu'il y a dans l'accomplissement de la mitzvah est tellement grande qu'elle me suffit. Je suis dans le Olam Haba. Je n'ai pas besoin donc d'un paradis supplémentaire. Et alors, qu'est-ce que je demande? Ben, je demande une autre mitzvah. C'est-à-dire, c'est tellement délicieux de faire une mitzvah que ma récompense serait d'en recevoir une autre. Et là où Rotsé, il veut, Shiyazmin lo Hakadosh Baruch Hu mitzvah acheret bischar mitzvah zot. Il demande que Dieu lui amène une autre mitzvah en récompense de cette mitzvah. Kemaamar Chachamenu Zimurcham Levracha, comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, schar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Kiunehene ma mitzvah be'atzma, parce qu'il a la jouissance dans la mitzvah en elle-même. Donc, il y a un moyen de savoir si on est avant, une seconde, David, si on est avant le verdict ou après le verdict. Quand on accomplit les mitzvot avec une joie telle qu'on est prêt même à renoncer à son paradis, et c'est alors que l'on peut savoir si on est avant le verdict ou pas. Qu'est-ce qu'il y a, David? Vas-y, parle sans crainte.
Je vais essayer, Arav. Sans crainte, ça va être dur. Il y a des mitzvot, Arav, que je comprends, on a la joie, etc. Mais la prière en elle-même, la tefila, on ne recherche pas dafka la joie dans la tefila, on cherche plus la pénitence, j'allais dire.
Disons comme ça, la prière elle-même est un acte de la crainte.
C'est ça?
Mais l'enveloppe, il s'agit ici de l'éalbiche, l'enveloppe de la prière, c'est la joie. Mais pour y arriver, il faut également passer toute une série de processus qui vont être décrits dans la suite. D'accord? Tu vois, tu n'avais pas raison d'avoir peur. Maintenant, il y a ici des questions qui sont posées sur chat, je ne peux pas m'en empêcher. Une seconde. Est-ce pour cela que Rashi compare la mitzvah à un vêtement? Je ne sais pas où est-ce que Rashi compare la mitzvah à un vêtement, mais enfin bon, c'est logique. Rav, c'est moi. Je ne comprends pas comment les sages font le lien entre la vision du monde dans laquelle chaque jeu est le centre du monde et la responsabilité de chaque jeu à l'égard de la complétude du monde, étant entendu que la responsabilité implique la liberté. Plus précisément le libre arbitre, l'action humaine et son effet sur l'état du monde. Quel lien avec la prière? C'est très simple. La prière, c'est un acte de volonté libre. L'homme est totalement libre et s'il est le centre du monde, il a donc la responsabilité d'user de sa liberté pour réparer le monde. Je pense être clair. Bon, et alors, continuons. Bon, donc ce niveau de joie dans lequel il y a une telle jouissance dans la prière, c'est la différence, on va voir, entre le niveau de la prophétie de Moshe et celle des autres prophètes. Ça veut dire, alors que Moshe a un désintéressement total dans l'accomplissement des mitzvot, les prophètes, eux, sont intéressés. D'ailleurs, on voit bien dans le récit de la Torah, dans la paracha de Kitissa, après la faute du veau d'or, que Moshe est prêt à renoncer à son Olam Haba pour sauver Israël. Ça veut donc dire qu'il avait déjà une prédisposition de ce genre. C'est-à-dire que pour Moshe, on ne cherche pas une finalité extérieure à la mitzvah. Parce que la mitzvah en soi est une adhésion au divin qui, dès le départ, nous situe dans le Olam Haba. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici, Vezeu Achiluk, Sheben Nevuat Moshe Rabbeinu, Leven Nevuat Shehar HaNevi, Keferush Rashi. C'est bien là la différence entre la prophétie de Moshe et la prophétie des autres prophètes. Vous savez que Maïmonide dit qu'en fait, l'expérience de Moshe n'est pas une prophétie. Elle est un événement unique pour lequel nous n'avons pas de terme. Donc, nous disons prophétie, mais alors qu'en vérité, c'est autre chose. Alors là, il amène Rashi. Kéferouche Rashi, comme le commente Rashi. Vaidaber Moshe el Rashi Amatot, Ze Hadavar Asher Tziva Hashem. Et Moshe dit au chef des tribus, voici la chose, voici la parole que Dieu a ordonnée. Alors vous remarquez le terme Ze Hadavar. Piresh Rashi, Rashi explique. Kol ha-Nevi'im nitnabeu be'ko amar Hashem. Tous les prophètes, quand ils ont prophétisé, ont dit « Ainsi a dit Dieu ». Nosaf allait, et Moshe aussi d'ailleurs emploie cette expression. Nosaf allait Moshe, mais Moshe a en plus de cela, Shehit Naba Beze Hadavar. Il a employé l'expression voici la chose. Qui, Birchinat Ko, parce que quand on dit ainsi, ou Aspaklaria Sheena Mira, c'est un miroir qui n'est pas limpide. Beze Hadavar, mais quand on dit voici la chose, ou Birchinat Aspaklaria Hamira, c'est le miroir limpide. Bon, c'est un vocabulaire qui est employé par les Chachamim dans le Talmud, qui est que les Moshe est différent des autres prophètes. Les prophètes ont une vision. Cette vision ressemble, n'est pas toujours totalement claire, elle ressemble à un miroir qui reflète de manière imparfaite une image. Tandis que chez Moshe, le miroir est totalement limpide, et donc Moshe a une compréhension, il a une appréhension claire, totale, du message qui lui est donné. C'est la différence entre le mot « ko » et le mot « zé ».« Ko », ça veut dire « ainsi ».« Ainsi », ça veut dire « approximativement ». Tandis que « zé », ça veut dire « c'est ça ». Et ces deux manières de prophétiser se retrouvent dans le service du Créateur. C'est-à-dire, de même que vous avez deux sortes de prophètes, Moshe et les autres, vous avez également deux manières de servir Dieu, celle désintéressée et l'intéressé. Yesh Adam, il y a un homme, haose a mitzvah bischar olam haba, qui accomplit la mitzvah pour recevoir sa récompense, son salaire, dans le monde à venir. Il n'a pas donc de jouissance dans la mitzvah en elle-même. Ilou lo ayu notnim lo olam haba bischara, et si on ne le récompensait pas par un salaire dans le monde à venir, bischara, comme récompense, lo aya ose ota, il n'aurait pas fait la mitzvah. Veze bechinat ko. Et c'est ce qu'on appelle ko, c'est-à-dire ainsi. Aspaklaria shena mira, c'est comme le miroir qui n'est pas limpide. Kemo adam shero ezedavar merachok, c'est comme quelqu'un qui voit un objet de loin. Ken hu ose ha mitzvah bishil schara haba le'et rachok. Donc il accomplit la mitzvah pour sa récompense qui viendra à un moment et à un temps éloigné. Haynu achar olamazé, c'est-à-dire après ce monde. Le shilum sachar nikra beshem navi. Et recevoir sa récompense, c'est ça qu'on appelle navi, c'est-à-dire le prophète. Alors là, vous rentrez dans la terminologie de Rabbi Nachman, il va employer un code. Il va dire le terme par lequel je désigne cette manière de servir Dieu, qui est pour recevoir la récompense dans le Olam Haba, ça s'appelle prophète. N'essayons pas de comprendre est-ce que c'est ça qu'est le prophète. Non, c'est un mot code. Et là, il va nous expliquer pourquoi. Qui rachète et vote chez Liavo Berina Nosé Alumotav, parce que les initiales de la phrase il viendra avec joie portant ses gerbes, c'est donc les initiales du mot navire, vous voyez, Yud, Bet, Nun, Aleph. En désordre, ça vous donne les initiales du mot Navi. Et quel est le contexte dans lequel ce verset est dit dans Tehilim? Vesham bapasuk hazeh nirmaz al shilum sachar. Et ce verset fait allusion au salaire, puisqu'il est dit Halor yelech uvacho nosse mesher hazara. Il va en pleurant, portant le mouvement des semailles. C'est-à-dire quand on sème, l'agriculteur, il sème, il jette des grains qui auraient pu être mangés. Il ne va pas les manger, il les jette dans les sillons. Et donc, il pleure parce qu'il se dit, voilà, je jette quelque chose qui pourrait être consommé, mais dans l'espérance de recevoir par la suite une récolte. Chez Mitztaer Baasiyata. Et donc, il est dans la souffrance quand il l'accomplit. Mais il viendra dans la joie pour porter ses gerbes. Shiismach le'atid, il repousse sa joie à l'avenir. Kishayekabel schara mitzvot, lorsqu'il recevra la récompense de ses mitzvot. Rachetevot, c'est ça les initiales de Yavo Burina Noséalumotav, il viendra dans la joie portant ses gerbes, Rachetevot, Navi. Ce sont les initiales du mot Navi. Donc, le Navi en question, le prophète, c'est celui qui n'est pas du niveau de Moshe, et donc qui a un miroir qui n'est pas limpide, et qui n'a pas la jouissance des mitzvot en elle-même, mais qui a l'espérance de la récompense dans le Olam Haba. Aval Navi Shemitnabe Bezadavar, mais le prophète qui prophétise en disant voilà la chose, il y en a un seul qui est comme ça, c'est Moshe, Sheno Rotse Bisrara Mitzvot, qui ne désire pas la récompense des mitzvot, et la Rotse Ba Mitzvah Atzma, mais qui veut la mitzvah pour elle-même, Sheum et Samer Kolkar Bersiata, qui est tellement joyeux en l'accomplissant, Hachememaes Bechol Min Sachar, au point qu'il méprise toutes sortes de salaires. Nimtsa she'olam haba shelo be'hamitzvah atzma. Il se trouve donc que son olam haba, son monde à venir, se trouve déjà dans la mitzvah en elle-même. Je voudrais ici amener un enseignement du Rav Kook, une parabole du Rav Kook qui explique un peu la chose. Le Rav Kook dit dans son livre Moussar Avicha, il parle d'un homme qui a entendu dire qu'il y a un lieu éloigné où il y a 1000 personnes qui sont en danger parce que un volcan va bientôt faire irruption et donc risque de tuer tout un village. Que fait cet individu? Il fait des efforts, il envoie des avions, il envoie une équipe de sauvetage. Et au moment, juste avant l'éruption, il fait sortir tous les habitants, il les amène dans un lieu sûr. Et alors, se trouve un milliardaire qui a entendu dire, qui entend cette histoire, et il envoie un chèque $1 million au sauveteur. Le sauveteur reçoit le chèque par la poste et dit « Ah, enfin, j'ai reçu ce que je voulais ». Et donc, il a réduit son acte qui n'avait pas de prix. Eh bien, son acte, maintenant, va devenir quelque chose de ridicule, $1 million. C'est-à-dire que dans l'absolu, la récompense est dans l'acte lui-même. Quand on ne le comprend pas, alors on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais en sortir de ça? Vous connaissez cette histoire du jeune juif qui dit à son père, « Papa, je veux épouser telle jeune fille. » Et le père lui dit, oui, mais elle n'a pas d'argent. Alors, ça ne vaut pas la peine. Il dit, oui, papa, mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'argent, mais ce n'est qu'avec elle que je serai heureux. Réponse du père, bon, d'accord, tu seras heureux, mais quoi de bien va-t-il te sortir de ça? C'est-à-dire, bon, certains ont compris, merci de ceux qui ont une bonne réaction par rapport à mes vannes. En tout cas, donc ça veut dire qu'en fait, le bonheur est en soi le Olam Haba. Je reviens ici au texte de Rabbi Nachman. Veze bechinat Navi, et c'est ça qu'on appelle Navi, au prophète. Haino shilum sachar, ça veut dire recevoir son salaire. Bechinat zehadavar, du point de vue de c'est là la chose elle-même. Bechinat aspaklaria meira, c'est-à-dire le miroir limpide. Kemo Adam, comme un homme. Aroé davar mikarov biriya yafa ubara, qui voit quelque chose de près, de manière claire et limpide. De même, il se réjouit de la mitzvah en elle-même. Usraro neged enav, sa récompense est devant ses yeux. Umi sheu ba madriga azot, c'est celui qui arrive à ce niveau. Sheosea mitzvah besimcha gdola kolkar, qui accomplit la mitzvah avec tellement de joie, atchen rotse beshum schar olam haba bishvila, au point qu'il ne désire même pas sa récompense dans l'olam haba pour la mitzvah. Ou yachol leida ben kodem zardin lachar zardin, c'est quelqu'un de ce niveau-là qui peut savoir s'il est avant le verdict ou après le verdict. qui? Alors maintenant, il va rentrer ici dans une analyse de qu'est-ce que c'est que les mitzvot. Tout le monde sait qu'il y a 613 commandements. Alors, ça veut dire quoi 613? Ben, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à vous arrivez à 613. Cette manière de voir les mitzvot comme étant un amoncellement quantitatif d'actions qu'il faut accomplir, c'est erroné. Les mitzvot ne sont pas une accumulation de commandements. Les mitzvot sont un organisme. C'est-à-dire que chaque mitzvah est lié à l'ensemble des mitzvot. Vous savez que lorsque un kabbaliste veut accomplir une mitzvah, il fait une petite prière qui s'appelle l'Echem Yichud, pour réaliser l'unité. Et dans cette prière de l'Echem Yichud, il dit « je vais accomplir telle mitzvah » avec toutes les autres 613 mitzvot qui y sont liées. « Une kol taryag mitzvot atulot ba ». C'est-à-dire, ce qui est supposé par les kabbalistes, c'est que une mitzvah, en fait, c'est toutes les mitzvot. Je vous explique pourquoi. L'ensemble des mitzvot est appelé parfois dans les textes mitzvah. Comme si c'était une seule mitzvah qui a 613 détails. Mais c'est en fait une seule mitzvah. Ça vous explique également pourquoi, quand on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot, même les mitzvot que nous accomplissons sont déficients. Et aujourd'hui, nous n'avons pas, par exemple, toutes les mitzvot qui sont liées au Temple de Jérusalem. Les mitzvot qui sont liées au Sanhédrin. Et tant d'autres mitzvot, c'est-à-dire que sur les, par exemple, 248 commandements positifs, nous sommes aujourd'hui capables d'en accomplir que 60. À peu près. Ça veut donc dire que même les mitzvot que nous accomplissons ne sont pas véritablement parfaites. Et il y a un lien entre l'ensemble des mitzvot. C'est ce qu'il dit. Ki ha mitzvot em koma shelema. Parce que les mitzvot sont une seule entité. Vehem mechaim et kol akomot. Et par les mitzvot, il y a vivification de toutes les entités. Hen komat ha adam. Qu'il s'agisse de la stature humaine. Hen komat Olam, ou que ce soit la stature du monde, du cosmos, Hen Komat Shana, ou qu'il s'agit de la stature du temps, Shana, l'année, le temps. Qui, Olam Shana Nefesh, parce que le monde, le temps et la psyché, Hen Mekabli Machayut Mea Mitzvot, reçoivent leur vitalité des mitzvot. Kemo Shekatu, ainsi qu'il est dit, Vechol ma'asehu be'emuna, parce que toutes ces actions sont liées à la fidélité. Bon, il y a ici des termes qui sont employés. Rabbi Nachman se sert ici d'une notion du Sefer Yetzirah, le livre de la formation, un des livres les plus anciens de la mystique juive, dans lequel il y a une classification de tous les êtres en trois catégories. Vous avez la catégorie de Olam, celle de Shana, celle de Nefesh, initiale du mot Ashan. Ashan, la fumée. Olam, Shana, Nefesh. Olam, ça veut dire le cosmos en tant qu'entité physique, disons spatiale. Shana, le temps qui s'écoule. Nefesh, l'être humain. Et bon, c'est pas évident de vivre dans un monde pareil, parce que quand je suis dans le monde, je suis obligé d'être dans un point déterminé géométriquement. Je ne peux pas être partout à la fois. Quand je suis dans un temps, je suis dans un temps déterminé, je ne peux pas être dans tous les temps à la fois. Et quand je suis une personne, j'ai un psychisme, je suis moi-même, je ne peux pas être tout le monde à la fois. Donc il y a obligatoirement une frontière, et il y a une réduction de l'être dans trois dimensions, Olam, Shana, Nefesh. Mais l'ensemble de tout ce qui est, ce sont ces trois dimensions. Et tout ceci est vivifié par les mitzvot. Alors là, je voudrais rappeler le sens du mot mitzvah. Mitzvah est en rapport avec le mot tsevet. Tsevet veut dire une équipe. C'est-à-dire ceux qui s'attachent l'un à l'autre. Les mitzvot sont une liaison. Et ce que dit ici Rabbi Nachman, les mitzvot vont mettre l'ensemble du monde, aussi bien spatial, temporel que psychique, va mettre ce monde en relation avec le créateur du monde. Et donc, ça va donner une vitalité au monde. En mekablin hachayut me mitzvot. Que Moshe Katou, et alors il amène pour ça un verset, vechol ma'asehu be'emuna, toutes ses actions, c'est-à-dire le monde entier, be'emuna, est lié par une fidélité, urtiv kol mitzvotecha emuna, et il est dit, tous tes commandements sont la fidélité. Donc on voit que le mot emuna est employé aussi bien pour la création que pour les mitzvot. Vakadosh ba'uchu hu achdut pashut ima mitzvot. Et le Saint béni soit-il est dans une unité simple avec les commandements. C'est-à-dire que, étant donné que Dieu a donné les commandements, quand j'accomplis son commandement, je suis lié à Dieu. Urshema se akadosh baruchu ketikunan uchesidran. Et lorsque les œuvres de Dieu sont en ordre, azay akadosh baruchu mesamer bem umitanek bem. C'est alors que Dieu s'en réjouit et sans délecte. Que Moshe Neema, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Yismach Hashem Bema Asav, Dieu se réjouira de ses actions, Kemo Baal Melacha, comme un ouvrier, Sheose Ezekli, un artisan, pardon, qui fait un objet. Veakli ou Yafe, et l'objet est beau. Azaihu mit anegba, il ressent une joie de l'outil. Et la joie de Dieu est enveloppée dans les mitzvot, qui est mardoto, parce qu'elles sont son unité. Et celui qui se réjouit de la mitzvah elle-même, nimtza keshenichnas beasimcha sheba mitzvah, lorsqu'il s'introduit dans la joie de la mitzvah, il se réjouit de la joie de Dieu lui-même qui se réjouit de ses actions. Et ça, c'est ce qui veut dire, ce qui explique le verset, Israël se réjouit avec son Créateur. C'est-à-dire, quand j'accomplis la mitzvah avec la joie de la mitzvah, en fait, je me réjouis de la même joie du Créateur lui-même. Nimtsa. Et donc, ce que ça veut dire, que Shiesh et Tsar Vedin Baolam, lorsqu'il y a une souffrance ou une rigueur dans le monde, au Shana Nefesh, ou bien dans le temps ou dans la personne, Azai Bevadai Nigra Misimchat Akadosh Baoko, donc il est évident qu'il y a moins de joie chez Dieu. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, va itatsev el libo, il fut attristé en son cœur. Ur Moshe Amru, ainsi qu'on a dit dans la Mishnah dans Sanhedrin, Shechina ma omeret, que dit la présence de Dieu lorsqu'un homme souffre, Kalani Miroshi, je veux me dégager de la lourdeur de ma tête. Vezeu, ça veut dire qu'en fait, il y a une participation de l'homme avec Dieu dans la mitzvah lorsqu'il y a la joie. Parce que pour Dieu, l'accomplissement de la mitzvah, c'est la joie de la vitalité qui est donnée au monde. Et donc, Vezeh Shenichas Betocha Simcha, et celui qui s'introduit dans cette joie, Yachol Bevadai Leda Lefinyana Simcha, il peut savoir selon la nature de la joie, Imukodem Gzardin ou Gulacha Gzardin. C'est la raison pour laquelle celui qui accomplit avec joie peut savoir s'il est avant le verdict ou après le verdict. Parce que s'il y a eu verdict, il y a moins de joie. Et ce moins de joie sera ressenti par celui qui accomplit la mitzvah. Gam Yachol Eda Ale Ezehu Chelek Me'akoma Nigzaradin. Et donc il peut savoir également quelle est la partie du monde sur laquelle le verdict a été prononcé. Parce qu'il sait selon l'organisme des mitzvot, im en yachol lasod b'simcha arraché à mitzvot, s'il ne peut pas accomplir avec joie les mitzvot fondamentales, aïnou, mitzvot atluyot barosh, c'est-à-dire les mitzvot qui dépendent de la tête, yeda shadin igzar al raché olam, shana nefesh. Alors il saura que le verdict a été prononcé contre la tête du monde, du temps ou du psychisme, ou bien sur d'autres parties donc, du monde, ainsi que pour le reste de la stature des mitzvot. Bon, alors, donc, tout ça, c'est une introduction, et nous continuerons ça, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom, et merci à tout le monde.